Amis Burgiens, bonjour à vous.
Et voici pour eux, pour nous.
Pour vous, Electric Boogaloo, votre chronique à cœur et à plume sur la fine fleur graphique de la bande dessinée.
Anne Tissier.
Et Maxime Mott, vous êtes bien sûr Radio B.
Pour vous servir.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Ok, 3, 2, 1, let's jam.
Se souvient-on encore d'Arrêt sur image, cette émission d'Arte présentée par Daniel Schneiderman de 1995 à 2007 sur Arte. Pourtant, elle faisait la part belle au décryptage des médias. Rappelons toutefois que cette émission existe toujours sur Internet, sur abonnement, 4 euros par mois. Bon, c'est pas cher,
ça
mais bon pour le principe.
Même.
Oui, effectivement.
Il était donc naturel, ou disons dans l'ordre des choses, que celui-ci préface l'édition française de l'ouvrage qui nous intéresse aujourd'hui. La machine à influencer, de Brooke Gladstone et Josh Neufeld, paru aux éditions Ça et Là en 2014. Et c'est un magnifique graphic novel, comprenez bien 186 planches, qui va expliquer de façon très didactique ce que sont les médias américains, leur façon de fonctionner, leur relation au pouvoir politique en temps de paix, en temps de guerre, leur relation à la censure, à l'argent, à l'opinion publique, à la technologie de diffusion et à l'évolution que représentent les réseaux sociaux. Brooke Gladstone, scénariste ici, raconte son histoire. Celle d'une journaliste et surtout l'histoire du journalisme américain depuis le XVIIe siècle. Elle est née en 1955 à Long Island et a fait ses études à l'université réputée de Stanford. Elle travaille à la radio publique NPR depuis 1987 et produit et anime une émission renommée sur les médias depuis l'an 2000 basée à New York. Une collègue, en somme, qui ma foi maîtrise fort bien son sujet.
Le dessinateur est Josh Neufeld. Il est né en 1967. Comme Brooke Gladstone, il est lui aussi new-yorkais et fortement inspiré par la BD européenne, par des auteurs comme Hergé, Goscinny ou Uderzo, mais aussi, beaucoup plus récemment, par Marjane Satrapi ou Art Spiegelman. Les sujets qui l'intéressent concernent principalement le réel, les phénomènes de société comme le big data. Le graphisme de cet album est très soigné, très détaillé. C'est classe, effectivement. Des pages entières sont des textes uniquement. Le propos est dense et la couleur dominante choisie est un bleu ciel qui permet au lecteur, effectivement, de ne pas être trop effrayé par l'effort de lecture que représente, en fait, cette incroyable densité d'analyse sur les médias. Alors même que certains chapitres, eux, sont particulièrement violents, comme ceux sur la censure au moment de la bomba à Hiroshima et Nagasaki, ou encore, évidemment, la guerre du Vietnam et son inutilité, son marasme médiatique.
À travers une approche remarquablement documentée et réfléchie, tout en restant didactique et accessible, Brooke Gladstone nous donne les clés pour comprendre ce que sont les médias aujourd'hui, à la lumière du passé, par amour de la liberté, de celle de la presse et de l'histoire des médias. Au XXIe siècle, mine de rien, la formation est une denrée comme les autres. Sa consommation est aussi boulimique qu'elle est invasive pour nous tous, qu'on le veuille ou non. Il nous faut apprendre à y voir plus clair et bien comprendre son usage comme sa finalité. Et l'audace de l'analyse commence mine de rien dès les premiers arguments et observations. Des piliers de bar aux trivialités mondaines de fin d'année qu'on a tous subies. Nous avons tous eu l'occasion de subir l'antienne vorace du grand complot médiatique. Débat récurrent des extrêmes de tous bords à travers l'histoire, mais... admettons. Les médias nous mentent, nous manipulent sans vergogne ni principe. On vous l'a fait courte. Pour le Pékin lambda, le grand méchant loup est journaliste. Mais qu'en est-il exactement ?
Oui, qu'en est-il exactement ? Eh bien, Brooke Gladstone nous présente ce qu'elle appelle le patient zéro. La première occurrence observée chez un certain James Tilly Matthews, un négociant anglais hanté fortement obsédé par le contrôle à distance de ses pensées et de ses actes, en 1796. Son angoisse a pour objet une machine influencée, tenez-vous bien, olfactive, altérant les sens et la raison au profit d'obscurs commanditaires du pouvoir. Le second exemple de Brooke Gladstone est celui d'une femme perturbée et instable, Nathalie Jha, sourde et muette, qui décrit ses tourments à Victor Tosk, disciple d'un certain Freud, en ces termes exacts. Je cite, « Cela fait 6 ans qu'il s'en prend à moi. Le pouvoir de sa machine s'étend de Berlin à Vienne. Je la vois, je l'entends, c'est comme un cercueil qui aurait ma forme. À chaque fois qu'il tape sur la machine, mon corps se brise. Quand il la dérègle, j'ai mal à la tête. Ma mère est elle aussi sous le contrôle d'une semblable machine, tout comme mes amis, mais ils l'ignorent. » Et oui, tout ceci a une forte odeur de schizophrénie.
Et cela ne vous rappelle rien ? Les influences, les fake news, la presse clandestine jusqu'au blog conspirationniste, l'éternel pugilat des commentaires YouTube, les histrions illettrés par Légion sur Twitter? Eh bien, nous y voilà. La machine influencée moderne est celle des médias de masse. Une illusion, une hystérie au sens strict, un palais des glaces, le panoptique de Foucault, la prison parfaite pour tous les angoissés du XXIe siècle en quête d'un élusif tourmenteur. Les médias de masse font office de conscience collective à nos sociétés en donnant une tribune à toutes les informations produites. Ainsi parle le journaliste et écrivain américain Walter Lippmann, et ce dès 1922. Je cite « Qu'il jette la première pierre, celui qui n'a jamais colporté comme vérité ce qu'il tenait d'un autre, qui n'en savait guère plus. Car l'environnement réel est à la fois trop vaste, trop complexe et trop fuyant pour pouvoir entretenir une relation directe avec lui. » Il faut donc un modèle simplifié du monde pour le comprendre. Un monde bien souvent couvert par la plume du journaliste.
Mais qui a précédé l'autre dans l'histoire, selon vous ? Le journaliste, soucieux d'une véracité factuelle, ou le publicitaire, opportuniste ? Brooke Gladstone dresse une fresque historique de l'histoire de l'information depuis l'Antiquité jusqu'au premier amendement de la Constitution des États-Unis. Nous allons donc le citer d'ailleurs, car évidemment il est très célèbre. Le Congrès ne fera aucune loi qui confère un statut institutionnel à une religion, ou qui interdise le libre exercice d'une religion, qui restreigne la liberté d'expression, ni la liberté de la presse, ni les droits des citoyens de se réunir pacifiquement et d'adresser à l'État des pétitions pour obtenir réparation des torts subis. Mais au-delà du principe honorable de ce premier amendement dans les faits, bien des formes de contournement à cet amendement ont émaillé l'histoire américaine par la censure. Les fausses rumeurs sans éthique, les fuites politiques pour acheter certains journalistes et les circonvolutions subversives d'usage, depuis le 11 septembre 2001 et le fameux Patriot Act du gouvernement de M. Bush.
Une histoire compliquée qu'est les médias et les États, mine de rien. Quelques épisodes fameux ont marqué les interactions entre journalistes et politiciens aux États-Unis. En 1969, par exemple, un certain Daniel Ellsberg, analyste militaire travaillant au Pentagone, récupéra 47 volumes de documents dans un coffre à la Rand Corporation et en a fait une copie avec l'aide d'un ami, Rousseau. C'est ce qu'on appellera les Pentagon Papers du département de la Défense sur l'implication des États-Unis durant la guerre du Vietnam. 23 années d'intervention secrète et de mensonges. Ellsberg, ancien Marines, décide de risquer la prison pour mettre fin à une guerre absurde et abusive.
On peut donc considérer que c'est effectivement un des premiers lanceurs d'alerte.
Ne parvenant à persuader aucun sénateur de rendre ses documents publics, il la porte au New York Times qui, après des réflexions, décide de les publier. Et pour ceux qui s'en rappellent, c'était un scandale planétaire. Des échecs militaires aux pertes civiles, des soldats traumatisés en passant par l'agent orange et autres compromissions délétères, la guerre du Vietnam n'est plus tolérable pour les citoyens américains désormais informés. La guerre, c'est moche, et beaucoup l'avaient hélas oublié.
Le principe implicite de l'infaillibilité présidentielle qui passait pour une chose acquise en Amérique s'en trouve passablement éreinté parce que cela montre que les gens font ce que demande le président, même quand c'est un mal et le président peut avoir tort.
En France, on se rappelle par exemple de l'affaire Benalla ou d'autres manu compromissions et légions d'affaires sont toutes assez encombrantes.
En révélant les agissements du gouvernement qui ont conduit à la guerre du Vietnam, les journaux ont précisément accompli avec noblesse le rôle que les citoyens attendent d'eux. Pendant ce temps, de jeunes reporters aux dents longues, Carl Bernstein et Bob Woodwards, remontent toute une chaîne de méfaits à partir d'une simple effraction en passant par des fonds secrets, de l'espionnage politique, des mensonges, et ce jusqu'au bureau ovale de la Maison Blanche, incident légendaire connu sous le nom de Watergate.
Grâce aux médias, ce prolixe et bavard quatrième pouvoir, nous avons des traces de la corruption du gouvernement américain et la possibilité d'en tirer des leçons, choses qui ne seront pas forcément faites. Mais depuis le 11 septembre et le Patriot Act, et hélas un état d'urgence qui tend à s'éterniser en France, la vigilance de la presse est contrecarrée au prétexte du renforcement de l'arsenal antiterroriste. L'exécutif neutralise tout effort de transparence au bénéfice d'une impunité opérationnelle, quitte à bafouer au passage certains droits fondamentaux. Une pensée pour Guantanamo, le centre aéré le plus tristement célèbre du gouvernement Obama, la chasse aux lanceurs d'alerte qui ont suivi, de Wikileaks ou encore d'Edward Snowden.
Oui, que peut-on penser de tout cela ? Le secret protège-t-il le citoyen ? Non. Il entrave la démocratie et emprisonne celui qui veut le rompre. Êtes-vous à l'abri, sans savoir pourquoi les États-Unis ont envahi l'Irak ? La CIA n'ayant pas exhumé de preuves convaincantes de la complicité de l'Irak dans les attentats du 11 septembre ou de la présence d'armes de destruction massive sur son sol, la Maison-Blanche crée un bureau des plans spéciaux au Pentagone pour sélectionner les informations à l'abri des regards du Congrès. D'après le Center for Public Integrity, la Maison-Blanche a émis, tenez-vous bien, 953 fausses déclarations sur l'Irak dans les deux années qui ont suivi les attentats du 11 septembre. L'enjeu est clair. garantir un contrôle total de la narration des événements, comme c'était le cas lorsque Nixon, effectivement, a tenté de le faire lors de la guerre du Vietnam.
En somme, tous les gouvernements mentent, et tous les gouvernements, hélas, auront le dernier mot. La démocratie se mérite, et la liberté a toujours pour prix une éternelle vigilance. Le savoir fait le pouvoir, et quiconque prétend vous nier l'accès à l'information veut être votre maître.
Avant, il fallait une éternité pour vérifier un fait. Aujourd'hui, on le fait tout de suite grâce à Internet. Or, quand il s'agit d'informations chiffrées, la vérification s'impose. D'aucuns présumera volontiers d'une recherche préalable, mais le peut-on encore de nos jours quand l'accès aux informations est de plus en plus, disons, impatiente et rapide? En journalisme comme au cinéma, la suspension de crédulité est une affaire de modération. Prenons un exemple. Le conditionnement psychique par un nombre morbide qui porte une charge symbolique en soi. Nous allons prendre, par exemple, le nombre récurrent de 50 000, qui était maintes fois cité par la presse à sensation de l'époque, pour les meurtres, les kidnappings et autres faits divers, sans source ni étayage factuel. En somme, ni trop haut ni trop peu, ce nombre n'est pas une réalité. Il est utilisé pour capter l'attention du public et du journaliste lui-même.
Ceux qui l'utilisent n'a pas toujours conscience de ce qu'il est ni d'où il vient. Brooke Gladstone nous l'explique. Au début des années 1980, ce nombre de 50 000 était souvent utilisé pour estimer le nombre d'enfants kidnappés par des inconnus chaque année aux États-Unis. Mais des recherches au début des années 90 ont montré qu'il s'agissait plutôt de l'ordre de 200 voire 300 victimes, pas plus. Vigilance toujours donc. L'information se prend avec des pincettes et la réalité est peu soucieuse de nos approximations. Alors comment éviter l'écueil ?
Et oui, comment éviter l'écueil ? Faut-il éviter la prise de risque d'une information diffusée mais non vérifiée ? Dans le journalisme américain, on emploie l'idée de grand refus en citant Alighieri Dante. Et oui, dans l'Enfer, premier volume de la Divine Comédie, écrite au XIVe siècle, dont le vestibule comprend les pusillanimes qui ne font rien de leur vie. Pour Dante, la vie n'a pas de sens pour qui ne veut pas s'engager.
Le journalisme n'a pas la fonction de conservation du savoir, mais celle de l'exposer au moment où les événements ont lieu. Peu de journalistes affichent ainsi leurs convictions car ils ont peur d'être accusés de prendre parti. Brooke Gladstone nous propose des angles de vue pour saisir les aspects principaux du monde du journalisme. Elle appelle biais, mais nous pourrions aussi les appeler impératifs. Un impératif commercial avant toute chose. Produire et gérer de l'information coûte de l'argent. Il faut des investisseurs et des publicitaires. À défaut, si c'est gratuit, eh ben, c'est que c'est vous le produit. Et donc on vous propose précisément ce que vous voulez entendre.
Et oui, et d'autre part, il y a l'impératif immobiliste. Ça peut sembler un peu bizarre comme expression, mais les journalistes sont réfractaires au changement, comme le sont tous les êtres humains. Il y a ensuite l'impératif d'accès aux sources. Les journalistes peuvent entretenir une relation ambiguë au monde politique pour maintenir un accès à l'information sous la forme d'un scoop ou tout simplement sous la forme de l'autorisation de diffusion. Et pour finir, l'impératif de l'angle visuel. L'angle de vue de l'information et le cadrage de la prise de vue du caméraman. Par exemple, la mise à bas de la statue de Saddam Hussein en 2003 n'a, dans la réalité, pas attiré une grande foule. Mais par contre, l'angle de vue sur les personnes présentes a permis de faire croire au succès de la manifestation.
Et ce n'est pas un cas isolé. Les angles de vue et des montages fabriquent l'information. Les nouvelles formes de journalisme impromptu, simultané et incontrôlable, à savoir les celles de l'utilisateur de smartphone et des réseaux sociaux, réduisent bien souvent les sources à celles du plus bruyant canari dans une mine de charbon. Tous les individus ont désormais les moyens de produire de l'information et de la diffuser. Les réseaux sociaux sont les nouvelles rédactions sans modération du monde des médias. Mine de rien, et quoi qu'on puisse en penser, du scribe guatémaltèque jusqu'à Frédéric Beigbeder, toutes les données produites et diffusées le furent pour et par de simples êtres humains. Des humains faillibles, partisans, corruptibles, mais parfois héroïques. La liberté a toujours pour prix une éternelle vigilance.
Et oui, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, comme dit l'oncle Ben à son neveu Peter, notre tisseur de toile préféré. Et quels que soient nos choix, nous aurons les médias que nous méritons.
La machine à influencer, un roman graphique de vulgarisation sur les médias de Brooke Gladstone, dans toutes les bonnes librairies. Et on se quitte avec une chanson produite, ma foi assez singulière, par le youtubeur de The Stupendium, The Fine Print, qui nous rappelle en substance que tout social qu'il puisse être, un contrat comporte toujours son lot de petites lignes insidieuses. Vigilance donc, ami Burgien, et à très bientôt sur les ondes.
À très bientôt.
Welcome to space. What were you expecting? It's a D. dangerous place. Thank you for investing. Go there for your rota, there for your orders. Fill up these quotas, we'll bill for your quarters. Report to your foreman, but watch for marauders. Cause if you get eaten, there's fees for your mourners. Prosperity's there in the care of magnates. In Halcyon heaven away. Did you think it was supposed to look like the poster? It mostly does, oh, if you'd only read closer. Just 10 short years to a new frontier. Snooze as you cruise and you'll wake up here. You've been trapped in that ship for an awful long time, so perhaps you have simply forgot what you signed. Oh, honestly, did you not read the colony policy that defined you as company property? That wavers your say in autonomy. The conglomerate's got you in lock and key. We put the dollar back into idolatry. If you're upset, you can rent an apology. We are a family forged in bureaucracy. No I in team, but there's con in economy. Were you expecting adventure? Were you hoping for fun? My friend, you're indentured and pleasure's exempt from your tenure. So venture back down to your slum that's provided at generous prices. Your worth is determined by your sacrifices. A small term of service went down on the surface. Internment's a freebie that comes with the purchase.
We work to earn the right to work. 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 To earn the right to give ourselves the right to buy. Ourselves the right to live. To earn the right to die.
To our little town, why don't you settle down? You just fill out the paperwork and you could look around. We're happy as can be inside the valley cannery. We live to pack the cans of meat and not to question where it's found until we end up in the ground. Around the corner in the yard, you know we thought we liked the sound of finding glory in the stars. The borders taught us to be proud of never reaching very far. So we earn what we're allowed and give it right back at the bar.
The ale to cure what ails you. Zero G brew, your favorite flavor. So work till you bleed, ennobled by labor. Then purchase relief from your local retailer.
If you'd rather drop dead, that's fine. But you know to dropping down dead bears are fine. So you do your job and I do mine. I gotta meet a 6 foot deep bottom line.
We make a fortune for the board by selling boredom door to door. Because it's all that we deserve and it is all we can afford. The secrets of the universe and all the worlds to be explored. But our dreams are back on earth and now the work is our reward. And you'll be grateful for seats at the table. Though it dips at one end and the bench is unstable. You may waste your days, but at least you were able to pay off your grave since we leased you your cradle. Be faithful and pray, we'll repay what you invest. Behave as you slave for humanity's interest. On account that you're all on account and we're quickly amounting humanity's interest. You'd think that we'd sink to the brink of rebellion with markets dependent on peddling weapons. The architect tells them the secret to heaven is simply consuming whatever we sell them.
We work to earn the right to work. To earn the right to work. To earn the right to work. To earn the right to work.
Initial here. Welcome to the family.